8. La sacristine, qui, en même temps, sera trésorière, aura soin de l'église. Elle aura la garde des clés et de tous les objets du culte. Elle recevra les offrandes, elle pourvoira aux ornements, se chargera de les faire réparer et d'en fournir de nouveaux. Ce sera à elle encore de préparer les hosties, les objets sacrés, les livres et la décoration de l'autel, les reliques, l'encens, le luminaire, l'horloge, les cloches. Ce sont les vierges, s'il est possible, qui feront les hosties, nettoieront le froment qui sert à les faire et laveront les pales de l'autel. Quant aux reliques et aux pales des religieux, ni la sacristine, ni aucune religieuse n'aura le droit d'y toucher, à moins qu'on ne leur donne les pales à laver. On appellera et on attendra pour cela les moines ou leurs convers, et s'il le faut, on en subordonnera pour cela à la sacristine quelques-uns qui soient dignes de les toucher. Ils les prendront et les replaceront dans les armoires qu'elle aura ouvertes. Il convient que celle qui a ainsi la garde du sanctuaire se distingue par sa chasteté, qu'elle soit, autant que possible, vierge de corps et d'âme, d'une abstinence et d'une continence éprouvées. Il est absolument indispensable qu'elle connaisse le compute de la lune afin de parer l'église suivant l'ordre des temps. La chantre aura la direction du chœur et veillera à la disposition des divins offices. Elle apprendra aux autres à chanter, à lire, à écrire et à dicter la musique. Elle aura aussi la garde de la bibliothèque, donnera et reprendra les livres, prendra soin des copies et des enluminures. Elle réglera la tenue du chœur, assignera les places, désignera celles qui devront lire ou chanter et dressera la liste des semainières qui sera lue tous les samedis au chapitre. En vue de ces divers services, il convient donc qu'elle soit instruite et qu'elle connaisse particulièrement la musique. Sous les ordres de la diaconesse, elle tiendra la main à l'observation de la règle et, en cas d'empêchement, c'est elle qui la remplacera dans ses fonctions. L'infirmière aura le soin des malades et veillera aux tentations de leur âme comme aux besoins de leur corps. Ce que leur état de santé exigera, aliments, bains ou toute autre chose, elle le leur donnera. On connaît le proverbe « Ce n'est pas pour les malades que la loi a été faite ». On ne leur refusera donc jamais de la viande, si ce n'est les vendredis, les veilles des grandes fêtes, les quatre temps et le carême. Car il faut d'autant plus les préserver du péché qu'elles doivent davantage songer à leur salut. C'est alors surtout qu'il faut s'étudier à garder le silence, où l'excès n'est jamais un défaut, et se livrer à la prière, ainsi qu'il est écrit « Mon fils, ne vous abandonnez pas vous-même dans la maladie, mais priez le Seigneur et il aura soin de vous. Détournez-vous du péché, élevez vos mains vers lui et purifiez votre cœur de toute iniquité. » Il faut aussi que l'infirmière fasse une garde vigilante auprès des malades, qu'elle soit toujours prête à venir à leur aide en cas de besoin. Il faut que la maison soit fournie de tout ce qui est nécessaire. Elle doit s'approvisionner de médicaments suivant les ressources de l'endroit. Ce qu'elle fera d'autant mieux qu'elle connaîtra la médecine. À elle encore appartiendra de veiller à tout ce qui touche aux pertes périodiques des sœurs. Il faut qu'elle sache saigner pour que cette opération ne nécessite l'accès d'aucun homme auprès des religieuses. L'infirmière réglera encore les heures des offices et la communion pour les malades afin qu'elle n'en soit pas privée. Le dimanche, au moins, elles doivent communier après préparation par la confession et la contrition dans la mesure du possible. Au sujet de l'extrême onction, on veillera avec soin à l'observation du précepte de l'apôtre Saint Jacques. Pour administrer ce sacrement à une malade désespérée, on introduira dans le monastère les deux plus vieux prêtres d'entre les moines et le diacre. Ils apporteront avec eux les saintes huiles et feront la cérémonie de l'onction, toute la communauté y prenant part, mais séparée de la chambre de la malade par une cloison. On fera de même toutes les fois qu'il sera nécessaire pour la communion. Il faut donc que l'infirmerie soit disposée pour l'administration des sacrements, de telle sorte que les moines puissent entrer et sortir sans voir la communauté ni en être vus. Chaque jour, une fois au moins, la diaconesse, accompagnée de la célérière, visitera les malades, comme le ferait le Christ, afin de s'éclairer sur leurs besoins temporels ou spirituels et d'y pourvoir. Ainsi mériteront-elles d'entendre ces paroles du Seigneur : J'étais malade et vous m'avez visité. Que si une malade approche de sa fin et tombe dans les angoisses de l'agonie, aussitôt une de celles qui la veillent, parcourant le couvent avec la crécelle et la faisant tourner, annoncera la fin de la sœur. Alors la communauté entière, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, se réunira auprès de la mourante, à moins que la célébration des offices ne l'en empêche. Dans ce cas, comme le service de Dieu doit passer avant tout, il suffira que la diaconesse, accompagnée de quelques sœurs qu'elle choisira, fasse diligence. La communauté viendra ensuite. Celles qui auront été ainsi réunies à la peine de la crécelle réciteront les litanies, parcourant la liste entière des saints et des saintes, puis les psaumes et les prières des morts. Combien sont bonnes ces visites aux malades ou aux morts, l'ecclésiaste le fait remarquer avec soin. « Mieux vaut aller, dit-il, dans une maison où l'on pleure que dans une maison où règne la joie d'un festin. Dans la première, on apprend quelle est la fin de tous les hommes, et vivant, on pense à ce que l'on doit être un jour. Ou encore, le cœur du sage se plaît là où est la tristesse. Dès que la malade a expiré, son corps doit être lavé par les sœurs. On lui mettra une robe grossière, mais une chemise propre et des sandales. Puis on la placera sur un brancard, la tête couverte de son voile. Il faut que ses vêtements soient solidement cousus ou attachés au corps, de manière qu'ils n'éprouvent aucun dérangement. Le corps apporté dans l'église, les moines, lorsqu'il en sera temps, l'enterreront, et cependant les sœurs ne cesseront de psalmodier dans l'église ou de prier dans leurs cellules. Le seul honneur de plus accordé à la diaconesse, c'est que son corps doit être enveloppé dans un cilice où elle sera cousue tout entière comme dans un sac. La robière aura le soin de tout ce qui concerne l'habillement, tant pour les chanoines que pour le reste. Elle fera tondre les brebis et recevra le cuir. Elle recueillera et gardera le lin et la laine. Elle prendra soin de la fabrication des toiles. Elle distribuera le fil, les aiguilles, les ciseaux. Elle aura la surveillance du dortoir et des lits. Elle sera chargée de diriger la taille, la couture, le lavage des nappes de table, des serviettes et de tout le linge du monastère. C'est surtout à elle que s'applique ce passage. Elle a recueilli le lin et la laine et les a travaillés de ses mains. Sa main a pris la quenouille et ses doigts ont fait tourner le fuseau. Elle ne craindra pas le froid ou la neige pour sa maison, car tous ses serviteurs ont double vêtement. Et le jour de sa mort, elle sourira, car elle a toujours gardé le seuil de sa maison et elle n'a pas mangé son pain dans l'oisiveté. Ses enfants se sont levés et ont annoncé qu'elle était bien heureuse. Elle aura tous les instruments nécessaires à son emploi. Elle réglera la tâche de chacune des sœurs. C'est elle qui prendra soin des novices jusqu'à ce qu'elle soit admise dans la communauté. La célérière aura la charge de tout ce qui concerne la nourriture. Cellier, réfectoire, cuisine, moulin, boulangerie, four, jardin, vergers et champs, ruches, troupeaux, animaux de toutes sortes et oiseaux. C'est sur elle que l'on comptera pour tout ce qui touche à l'alimentation. Elle ne doit pas se montrer avare, mais toujours prête et empressée à donner ce qui est nécessaire. Dieu, est-il dit, aime celui qui donne gaiement. Défense lui est faite de songer à elle-même plus qu'aux autres dans les soins de sa charge, de se préparer des mets particuliers, de se réserver des douceurs. Le meilleur économe, dit saint Jérôme, est celui qui ne se réserve rien. Judas, ayant abusé de sa charge pour se faire un pécule, fut exclu du cénacle des apôtres. Ananias aussi et Saphire, sa femme, ayant retenu ce qui ne leur appartenait pas, furent condamnés à mort. Quant à la portière ou à l'hostière, ce qui est la même chose, à elle appartient le soin de recevoir les étrangers et tous ceux qui se présentent, de les annoncer, de les mener où il faut et de pourvoir à tous les besoins de l'hospitalité. Il convient qu'elle soit d'un âge et d'un esprit sûr, qu'elle sache donner et recevoir une réponse et distinguer ce qu'il faut de ce qu'il ne faut pas recevoir. Placée à l'entrée du monastère comme dans le vestibule du Seigneur, c'est elle qui donnera la première impression. Il est donc bon qu'elle fasse honneur à la tenue de la maison, qu'elle ait la parole douce, l'abord agréable, afin que ceux-mêmes qu'elle conduira soient édifiés dans leur charité par la justesse des raisons qu'elle leur donnera. Car il est écrit « Une réponse douce brise la colère et une parole dure fait monter la fureur. » Et ailleurs, « Une parole douce multiplie les amis et apaise les ennemis. » Voyant plus souvent les pauvres et les connaissant mieux, c'est elle qui leur distribuera les aliments et les vêtements qu'on voudra leur donner. Dans le cas où elle aurait besoin, elle ou les autres officières, d'assistance et de soulagement, la diaconesse leur donnera des suppléantes qu'elle choisira particulièrement parmi les sœurs converses pour qu'aucune sœur ne manque au service divin, au chapitre ou au réfectoire. La portière aura un petit logement auprès de la porte afin qu'elle ou sa suppléante soit toujours prête à répondre aux arrivants. Elles n'y devront pas rester oisives et elles s'attacheront d'autant plus à observer le silence que leur bavardage pourrait plus facilement arriver aux oreilles des personnes du dehors. À la portière incombe le soin non seulement d'écarter les hommes, mais de fermer la porte au bruit qui pourrait pénétrer dans le couvent. Elle sera responsable de tous les abus de cette sorte. Si elle entend quelque chose qui mérite d'être su, elle ira en faire part secrètement à la diaconesse qui prendra telle mesure qu'elle jugera opportune. Dès qu'on a frappé ou appelé à la porte, elle doit se présenter, demander aux survenants ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent et leur ouvrir aussitôt, s'il y a lieu, pour les recevoir. Les femmes seules pourront être reçues à l'intérieur du couvent. Les hommes seront dirigés chez les moines. Pour quelque motif que ce soit, aucun ne sera admis dans le couvent que sur l'avis et par l'ordre de la diaconesse. Quant aux femmes, elles auront immédiatement porte ouverte. Les femmes accueillies, les hommes entrés pour un motif quelconque, la portière les fera demeurer dans sa cellule jusqu'à ce que la diaconesse ou les sœurs, s'il y a nécessité ou convenance, viennent les recevoir. Si ce sont des pauvres à qui il faille laver les pieds, la diaconesse elle-même et les sœurs s'acquitteront avec empressement de ce devoir d'hospitalité. C'est en se livrant à cet humble service d'humanité que l'apôtre a mérité le nom de diacre, ainsi qu'il est dit dans la vie des saints-pères. L'homme-Dieu s'est fait diacre pour vous. Il s'est ceint d'un linge pour laver les pieds de ses disciples et il leur a fait laver les pieds de leurs frères. C'est ce qui a fait dire à l'apôtre, en parlant de la diaconesse, si elle a donné l'hospitalité, si elle a lavé les pieds des pauvres. Et le Seigneur lui-même, « J'étais étranger et vous m'avez reçu. » Toutes les officières devront être instruites de ces devoirs qui n'ont pas de rapport avec les lettres, excepté la chantre, et celles, s'il s'en trouve, qui se livrent à l'étude des lettres et qui n'en doivent pas être distraites. 9. Que les ornements de l'Église soient suffisants, qu'il n'y ait rien de superflu, qu'ils soient propres plutôt que précieux. Point de matière d'or ou d'argent, sinon un calice ou plusieurs s'il le faut. Point d'autres ornements en soi que les étoles et les manipules. Point d'image taillée, une croix de bois sur l'autel. Une peinture de l'image du Sauveur n'est pas interdite, mais les autels ne doivent avoir aucune autre image. Deux cloches suffisent au monastère. Un vase d'eau bénite sera placé à l'entrée de l'église, au dehors, afin qu'avant d'entrer le matin, ou au moment de sortir, accompli, les religieuses puissent se sanctifier. 10. Nul ne peut s'absenter aux heures canoniales. Au premier signal, toutes devront tout quitter pour se rendre à l'office avec empressement, d'un pas modeste toutefois. En entrant dans l'église, que celles qui le pourront disent « Introibo in domum tuam » Adorabo a templum sanctum tuum. On n'aura point d'autres livres au cœur que celui qui sera utile pour l'office du moment. Les psaumes seront récités à haute et intelligible voix et la psalmodie ou le chant mis sur un ton qui permette aux voix les plus faibles de suivre. Il ne sera rien lu ni chanté dans l'Église qui ne soit tiré des écrits canoniques, du Nouveau ou de l'Ancien Testament, et on aura soin de distribuer les lectures de façon que les Écritures soient lues en entier à l'Église dans le cours de l'année. les sermons ou les exhortations des pères de l'Église, tous les textes propres à l'édification seront lus particulièrement au réfectoire ou au chapitre. Mais on en permettra la lecture partout où besoin sera. Aucune religieuse ne se hasardera à lire ou à chanter sans s'y être préparée. Si, par hasard, malgré cette précaution, elle laissait échapper quelques fautes de prononciation à l'Église, elle s'en excusera aussitôt devant toutes ses sœurs en répétant elle-même au fond de son cœur « Seigneur, pardonnez encore cette fois à ma négligence. » Au milieu de la nuit, on se lèvera pour chanter les vigiles suivant l'instruction du prophète et, à cet effet, on se couchera de bonne heure afin que les santés délicates puissent supporter cet exercice. D'ailleurs, tout ce qui appartient au devoir du jour doit finir avec le soleil, selon la règle de saint Benoît. Après matine, on entrera au dortoir pour n'en sortir qu'à l'aude. Tout le reste de la nuit sera accordé aux exigences de la nature. Le sommeil rafraîchit le corps, le rend propre au travail, le conserve sain et dispos. Celles qui ont besoin de méditer sur quelques psaumes ou sur quelques lectures, suivant la règle de saint Benoît, doivent le faire sans troubler le sommeil des autres. Voilà pourquoi saint Benoît dit « méditation » et non « lecture », de peur que la lecture n'empêche les autres de dormir. Au reste, il n'oblige personne à cet exercice puisqu'il dit « aux frères qui en ont besoin ». Si l'on a besoin d'apprendre à chanter, on devra s'imposer la même règle. Les matines se chanteront à la pointe du jour et on les sonnera, s'il est possible, dès le crépuscule. Cet office fini, on retournera au dortoir. En été, les nuits étant courtes et les matinées longues, nous n'interdisons pas de dormir jusqu'à l'heure de prime, pourvu qu'au premier coup de cloche, on soit debout. Saint Grégoire fait mention de ce repos après matine dans son chapitre des dialogues, lorsqu'il dit, en parlant du vénérable abbé Libertinus, on devait, ce jour-là, prendre une mesure importante pour le monastère. Après matine, Libertinus vint au lit de l'abbé pour lui demander humblement sa bénédiction. Il n'est donc pas interdit de reposer après matine, depuis la Pâque jusqu'à l'équinoxe d'automne, époque à partir de laquelle les jours diminuent. Au sortir du dortoir, on se lavera les mains, on prendra les livres et on restera dans le cloître à lire ou à chanter jusqu'au coup de prime. À l'issue de prime, on se rendra au chapitre et là, toutes les sœurs étant réunies, on lira le martyrologe après avoir indiqué le jour de la lune. Ensuite, il sera fait quelque entretien édifiant ou quelques lectures commentées de la règle. Enfin, ce sera le moment de pourvoir aux réformes ou aux dispositions nouvelles s'il y a lieu. On doit comprendre qu'un monastère, pas plus qu'une autre maison, ne passe pour mal ordonné parce qu'il s'y produit quelque désordre, mais parce que le désordre produit, il n'y est pas diligemment porté remède. Quel est, en effet, le lieu où le péché naît sa place? Saint Augustin était bien convaincu de cette vérité quand, dans un certain passage de son instruction à son clergé, il disait « Quelque vigilante que soit la règle de ma maison, je suis homme et je vis parmi les hommes, et je ne me flatte pas que ma maison vaille mieux que l'arche de Noé, où cependant, sur 8 hommes, il y eut un réprouvé. Mieux que la maison d'Abraham, à qui il a été dit « Chassez votre servante ». Mieux que celle d'Isaac, où Dieu a dit « J'ai aimé Jacob et haï Ésaü ». Mieux que celle de Jacob, où le fils a souillé le lit de son père. Mieux que celle de David, dont un fils a couché avec sa sœur, tandis que l'autre s'est révolté contre son père. Mieux que la compagnie de saint Paul, qui n'aurait pas dit s'il n'eût habité que parmi des justes, « Au dehors les combats, au dedans les alarmes. » Et encore, « Il n'y a personne qui s'occupe cordialement de vous, chacun ne cherche que son bien. » Mieux que la compagnie de Jésus lui-même, auquel 11 justes ont fait supporter la perfidie et les larcins de son 12e disciple, de Judas. Mieux enfin que le ciel dont les anges ont été précipités. Le même Père qui nous encouragea à suivre la règle du monastère ajoute « J'avoue devant Dieu que, du jour où je me suis consacré à son service, je n'ai pas trouvé de meilleurs chrétiens que ceux qui vivent dans les monastères, conformément à leurs vœux. Mais je n'en ai pas non plus connu de pire que ceux qui ont failli dans les monastères. En sorte que, si je ne me trompe, c'est de là qu'il est écrit dans l'Apocalypse « Le juste devient plus juste, et celui qui s'est souillé s'enfonce davantage dans la souillure. » Il faut donc que la règle de la correction soit tendue de telle sorte que si quelque religieuse a reconnu la faute d'une autre et l'a dissimulée, elle soit punie plus rigoureusement que la coupable. Nul ne doit différer d'accuser son péché ou le péché d'autrui. Celle qui préviendra l'accusation des autres en s'accusant elle-même, ainsi qu'il est écrit « Le juste est le premier à s'accuser », encourra une peine plus douce, pourvu qu'elle ne retombe pas dans la même faute. Nul ne doit prendre sur soi d'en excuser une autre, à moins que la diaconesse ne lui demande de lui faire connaître une chose que les autres ne sauraient pas. Nul ne doit s'arroger le droit de faire la leçon aux autres, si ce n'est de la part de la diaconesse, car il est écrit, au sujet du règlement de la correction, « Mon fils, ne rejetez point la correction du Seigneur, et ne vous abattez point lorsqu'il vous châtiera. Dieu châtie celui qu'il aime, et il se complaît en celui qu'il châtie comme un père en son fils. » Et encore, « Celui qui ménage la verge est son fils. Celui qu'il aime le corrige sans cesse. » En voyant le corrompu châtié, l'insensé deviendra plus sage. Le fouet est fait pour le cheval, la corde pour l'âne, et la verge pour les hommes qui se conduisent mal. Celui qui en châtie un autre trouvera dans la suite, auprès de lui, plus de reconnaissance que celui qui le trompe par les caresses de ses éloges. Toute correction sur le moment semble pleine, non de joie, mais d'amertume. Mais un jour, elle rapportera à ceux qui en auront subi l'épreuve les fruits les plus doux de la vertu. La confusion d'un père est dans un enfant qui n'a pas été corrigé, et sa honte dans la mauvaise conduite de sa fille. Celui qui aime son fils le corrige sans cesse afin d'être heureux dans sa vieillesse. Celui qui instruit son fils sera loué dans son fils et glorifié en lui au milieu de toute sa maison. Un cheval qu'on ne dompte pas devient intraitable. Un fils auquel on a lâché les rênes devient insolent. Flattez votre fils et il vous fera trembler. Jouez avec lui et il vous contristera. Dans les délibérations du conseil, chaque religieuse aura le droit de donner son avis. Mais tout ce que la diaconesse aura décidé sera tenu pour immuable. C'est de sa volonté que tout dépend, dût-elle même, ce dont Dieu la préserve, se tromper et s'arrêter au mauvais parti. C'est ce qui a fait dire à saint Augustin, dans son livre des Confessions, « Celui-là commet un grand péché, qui désobéit en quelque chose à ses supérieurs, alors même qu'il ferait mieux que ce qui lui est ordonné. Mieux vaut, en effet, bien faire que faire le bien. Il faut moins se préoccuper de la chose en elle-même que de la façon dont elle est faite et de l'esprit dans lequel on l'a fait. Tout ce qui est fait par obéissance est bien fait, encore que cela ne paraisse pas un bien. En tout point, il faut obéir au supérieur, quels que soient les inconvénients des choses, dès le moment qu'il n'y a point péril pour l'âme. C'est au supérieur de bien ordonner, puisqu'il suffit aux religieux de bien obéir et de suivre, conformément à leurs vœux, non leur propre volonté, mais celle de leur supérieur. Nous interdisons donc d'une manière absolue de jamais faire prévaloir la coutume sur la raison et d'opposer la coutume à la raison. C'est sur ce qui est bien, non sur ce qui est en usage, qu'il faut se régler, en sorte qu'un ordre soit accueilli d'autant plus volontiers qu'il paraît meilleur. Autrement, ce serait judaïser et préférer à l'Évangile l'ancienne loi. Saint Augustin, s'appuyant du témoignage de saint Cyprien, dit en quelque endroit « Celui qui, au mépris de la vérité, prend sur lui de suivre la coutume, est assurément ou jaloux et envieux de ses frères, auxquels la vérité a été révélée, ou ingrat envers Dieu, dont l'inspiration est la lumière de l'Église. » Et encore, Jésus-Christ dit dans son Évangile « Je suis la vérité, et non, je suis la coutume. » Lors donc que la vérité a été manifestée, il convient que la coutume s'efface devant elle. Et encore, lorsque la vérité a été révélée, il faut que l'erreur s'efface devant la vérité. Saint-Pierre cessa de circoncire et céda le pas à Paul lorsque Paul commença à prêcher la vérité. Et ailleurs, dans son livre quatrième sur le baptême, « C'est en vain que ceux qui sont vaincus par la raison nous opposent la coutume, comme si la coutume était supérieure à la vérité, comme si, dans les choses spirituelles, il ne fallait pas suivre ce que l'Esprit-Saint a révélé de meilleur. » C'est donc un point incontestable qu'il faut faire passer la raison et la vérité avant la coutume. Assurément, écrivait saint Grégoire à l'évêque Vimont, assurément il faut, suivant la maxime de saint Cyprien, faire passer la vérité avant la coutume, quelque ancienne et quelque répandue que soit la coutume. Tout usage contraire à la vérité doit être détruit. Avec quel amour nous devons, même dans nos paroles, nous attacher à la vérité, l'Ecclésiaste nous l'apprend dans le passage où il dit « Ne rougissez pas de dire la vérité pour le salut de votre âme. » Et encore, « Ne contrariez en rien la parole de vérité. » Et ailleurs, « Que la parole de vérité inspire toutes vos œuvres et une ferme sagesse vos actions. » Ne vous autorisez point de l'exemple de la foule, mais de l'approbation des sages. Le nombre des insensés, dit Salomon, est infini, et selon la parole de la vérité même, beaucoup sont appelés et peu élus. Tout ce qui est précieux est rare. L'abondance d'une chose en diminue le prix. Ne suivons donc pas le conseil du plus grand nombre, mais le meilleur. Ne considérons pas l'âge de l'homme, mais sa sagesse. Ne consultons pas l'amitié, mais la vérité. De là cette pensée du poète, il est permis de profiter des leçons même d'un ennemi. Toutes les fois qu'il y a quelque résolution à prendre, il ne faut point perdre de temps. Et si la délibération est grave, il faut assembler la communauté. Dans la discussion des affaires moins importantes, il suffit que la diaconesse réunisse quelques-unes des principales sœurs, car il est écrit, au sujet du conseil, « Où il n'y a personne pour gouverner, le peuple périt. » Le salut est là où il y a beaucoup de conseils. La route est toujours droite aux yeux de l'insensé, mais le sage écoute les conseils. « Mon fils, ne faites rien sans prendre conseil, et vous n'aurez pas de regrets. » Si quelque affaire réussit d'aventure sans qu'on ait pris conseil, la faveur de la fortune n'excuse pas la présomption de l'homme. Si, au contraire, l'échec arrive après le conseil, le pouvoir qui a pris conseil ne saurait être accusé de présomption, car celui-là est moins coupable qui a eu confiance que ceux sur le mauvais avis desquels il s'était reposé. Au sortir du chapitre, les religieuses se remettront chacune à leur ouvrage, soit à la lecture, soit au chant, soit à des travaux manuels, jusqu'à l'heure de tierce. Après tierce, on dira la messe. Elle sera célébrée par un prêtre choisi à cet effet par les moines pour la semaine et assistée, si les moines sont en nombre, d'un diacre et d'un sous-diacre qui le serviront et rempliront chacun leur office. Leur arrivée et leur départ auront lieu de telle sorte qu'ils ne soient point vus de la communauté. Dans le cas où un plus grand nombre de moines serait nécessaire, on y pourvoira, mais autant qu'il est possible, de telle façon que les messes des religieuses n'empêchent pas les religieux d'assister aux offices divins dans leur couvent. Pour la communion des sœurs, on choisira le prêtre le plus âgé. Il la leur donnera après la messe, après avoir fait sortir auparavant le diacre et le sous-diacre pour supprimer toute occasion de tentation. La communauté entière communiera au moins 3 fois l'an, à Pâques, à la Pentecôte, à Noël, ainsi que les pères l'ont établi même pour les personnes qui vivent dans le siècle. Elle se préparera à cette communion générale par une pénitence de 3 jours précédée de la confession. Pendant ces 3 jours, les religieuses vivront de pain et d'eau, se purifieront incessamment par la prière, faite avec humilité et tremblement, en se remettant devant l'esprit la terrible sentence de l'apôtre « Quiconque aura mangé le pain ou bu le calice du Seigneur sans en être digne, sera coupable du corps et du sang de Jésus-Christ. Que l'homme se mette donc à l'épreuve avant de manger ce pain et de boire ce calice, car celui qui mange et boit sans en être digne, mange et boit sa propre condamnation, pour n'avoir pas jugé que c'était le corps du Seigneur. C'est pour cela que l'on voit parmi nous tant de malades et de faibles, tant de gens endormis. Si nous jugeons nous-mêmes, nous y gagnerons de n'être pas jugés. Après la messe, les religieuses retourneront à leurs occupations jusqu'à Sexte. Elles ne doivent point être oisives un seul moment. Chacune d'elles doit faire ce qu'elle peut et ce qu'il faut. Après Sexte, on dînera, si ce n'est pas jour de jeûne, car alors il faudrait attendre après nonne, et dans le carême, après vêpres. En tout temps, on doit faire la lecture au réfectoire. Lorsque la diaconesse l'aura trouvée assez longue, elle dira « Assez !» et aussitôt tout le monde se lèvera pour les grâces. Dans l'été, après dîner, on se retirera jusqu'à nonne au dortoir pour s'y reposer. Après nonne, on reviendra à la besogne jusqu'à vêpres. Immédiatement après vêpres, on soupera ou l'on fera collation suivant l'ordre des temps. Les samedis, avant la collation, on se purifiera, c'est-à-dire qu'on se lavera les pieds et les mains. C'est la diaconesse qui s'acquittera humblement de ce service avec les semainières de la cuisine. Après la collation, on se rendra aussitôt accompli, puis on ira se coucher. 11. Quant à la nourriture et à l'habillement, on observera le précepte de l'apôtre qui dit « Contentons-nous de nos aliments et de nos vêtements », c'est-à-dire « Contentons-nous du nécessaire sans chercher le superflu ». On emploiera effectivement ce qu'il y a de moins coûteux, ce qu'on pourra se procurer le plus aisément et porter sans scandale. C'est seulement le scandale de sa propre conscience et de celle des autres que l'apôtre recommande d'éviter dans la nourriture. Il savait que le mal n'est point à manger, mais à manger avec gourmandise. Que celui qui mange, dit-il, ne méprise pas celui qui ne mange pas. Que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Dieu s'en est chargé. Qui êtes-vous, vous qui jugez le serviteur d'autrui? Celui qui mange, mange pour plaire au Seigneur, car il lui rend grâce, et celui qui ne mange pas, ne mange pas pour plaire au Seigneur, car il lui rend grâce aussi. Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, mais pensez plutôt que vous ne devez offrir à votre frère ni pierre d'achoppement, ni scandale. Je sais, et je crois en Jésus-Christ, qu'il n'y a rien d'impur par soi, mais seulement par l'impureté qu'on y met, car le royaume de Dieu ne consiste pas dans le boire et le manger, mais dans la justice, dans la paix et dans la joie que donne l'Esprit-Saint. Tout est pur. Le mal est dans l'homme qui mange pour scandaliser les autres. Il vaut mieux ne point manger de chair et ne point boire de vin, ni rien faire qui puisse offenser ou scandaliser votre frère. Le même apôtre, après avoir parlé du scandale que l'on cause à son frère, ajoute au sujet du scandale qu'on se cause à soi-même en mangeant contre sa conscience « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même en ce qu'il veut faire, mais celui qui se demande s'il mangera et qui mange est condamné parce qu'il n'agit pas par un acte de foi. Or, tout ce qui n'est pas acte de foi est péché. Nous péchons en tout ce que nous faisons contre notre conscience et notre croyance. » Nous nous jugeons et nous nous condamnons nous-mêmes au nom de la loi que nous avons reçue et acceptée, par cela seul que nous approuvons, c'est-à-dire que nous mangeons tels aliments que, suivant cette loi, nous devons rejeter et condamner comme impurs. Telle est l'importance du témoignage de la conscience qu'il suffit à nous excuser ou à nous accuser devant Dieu. C'est ce que rappelle saint Jean dans sa première épître. « Mes frères, dit-il, si notre cœur ne nous reproche rien, ayons confiance en Dieu, et tout ce que nous lui demanderons, nous le recevrons si nous sommes fidèles à ses préceptes et si nous ne faisons rien qui ne lui soit agréable. » C'est aussi avec raison que saint Paul avait dit auparavant qu'il n'y a rien de commun pour Jésus-Christ, si ce n'est ce qu'on croit devoir l'être, c'est-à-dire ce que l'on croit impur et interdit. En effet, nous appelons commun les aliments qui, selon la loi, sont appelés impurs, parce que la loi, les interdisant à ses fidèles, les expose, pour ainsi dire, et les met en vente pour ceux qui sont hors de la loi. De là vient que les femmes communes sont impures et que tout ce qui est commun, tout ce qui est du domaine public, est vil ou moins précieux. Saint Paul dit donc qu'il n'est point par Jésus-Christ de viande commune, c'est-à-dire impure, puisque la loi de Jésus-Christ n'en interdit aucune, si ce n'est, comme je l'ai dit, pour éviter le scandale de sa propre conscience et de celle d'autrui. Il dit ailleurs à ce sujet, « C'est pourquoi, si la viande que je mange scandalise mon frère, je n'en mangerai jamais pour ne pas scandaliser mon frère. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Soit, en d'autres termes, n'ai-je pas cette liberté que le Seigneur a donnée aux apôtres de manger de toutes sortes de viandes et de recevoir toute espèce d'assistance? En effet, il dit quelque part, en envoyant ses apôtres prêcher sa doctrine, « Mangez et buvez tout ce que vous trouverez chez eux. » Il ne faisait aucune distinction entre les aliments. L'apôtre, fidèle à cette doctrine, la maintient en disant qu'il est permis aux chrétiens de manger toute espèce d'aliments, fût-ce même des aliments destinés aux infidèles ou offerts aux idoles, à la seule condition, je le répète, d'éviter le scandale. « Tout est permis, dit-il, mais tout n'est pas bon. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son bien propre, mais le bien d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans scrupule. La terre et tout ce qu'elle porte dans son sein est au Seigneur. Si quelqu'un fidèle vous invite à sa table et qu'il vous plaise d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous servira sans scrupule. Si l'on vous dit « ceci a été offert aux idoles », n'en mangez pas par respect pour le scrupule de celui qui fait la distinction, par respect pour la conscience d'autrui, dis-je, non pour la vôtre. Ne blessez ni les juifs, ni les gentils, ni l'Église de Dieu. » De ces paroles de l'apôtre, il ressort clairement qu'aucun aliment ne nous est interdit si nous en pouvons manger sans blesser notre propre conscience ni celle des autres. Nous agissons sans blesser notre propre conscience si nous croyons de bonne foi suivre le genre de vie qui doit nous conduire au salut. Sans blesser la conscience des autres s'ils ont la confiance que notre genre de vie doit nous sauver. Et nous vivons de cette manière si nous satisfaisons les besoins de la nature en évitant le péché, si, ne présumant pas trop de notre vertu, nous ne nous chargeons pas par nos vœux d'un joug sous lequel nous succomberions. Chute d'autant plus grave que le degré auquel nous avaient élevé nos vœux serait plus haut. Prévenant cette chute et les vœux d'un engagement irréfléchi, l'Ecclésiaste dit « Si vous avez fait un vœu à Dieu, ne différez pas de vous en acquitter. Tout engagement irréfléchi et que l'on ne tient pas lui déplaît. Quels que soient les vœux que vous avez faits, accomplissez-les. Mieux vaut de beaucoup ne point faire de vœux que de ne point tenir ce qu'on a fait. » C'est aussi à ce péril que l'apôtre veut remédier quand il dit « Je veux que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles tiennent une maison, et qu'ainsi elles ne donnent à l'ennemi aucune occasion de pécher, car il en est qui sont retournés à Satan. » Considérant la faiblesse de l'âge, au danger d'une vie meilleure, il oppose le remède d'une vie plus libre. Il conseille de se tenir en bas, de peur d'être précipité d'en haut. C'est également le sentiment de saint Jérôme dans les instructions qu'il donne à Eustochie. « Si celles, lui dit-il, qui sont restées vierges sont néanmoins condamnées pour d'autres péchés, qu'adviendra-t-il de celles qui auront prostitué les membres de Jésus-Christ et qui auront changé en lieu de débauche le temple de l'Esprit-Saint? Mieux eût valu pour l'homme subir le mariage et suivre le chemin de la plaine que de vouloir s'élever et d'être précipité dans les ombres de l'enfer. » Repassons dans l'esprit tous les préceptes de l'apôtre, nous verrons que c'est aux femmes seulement qu'il permet un second mariage. Pour les hommes, il les engage à la continence. « Si un homme est appelé circoncis, dit-il, qu'il ne se fasse pas gloire de montrer son prépuce. Et ailleurs, êtes-vous veuf, ne cherchez pas femme. » Moïse, au contraire, plus doux aux hommes qu'aux femmes, accorde à l'homme plusieurs femmes, tandis qu'il refuse à la femme plusieurs maris, et punit plus sévèrement l'adultère chez les femmes que chez les hommes. La femme, dit l'apôtre, à la mort de son mari, est affranchie du lien qui l'attachait à lui. Elle n'est point adultère en s'unissant à un autre homme. Et ailleurs, je dis aux veuves et aux vierges qu'il est bon pour elles de rester dans cet état, ainsi que j'y reste moi-même. Mais si elles ne peuvent garder la continence, qu'elles se marient. Mieux vaut se marier que d'être brûlé des ardeurs du désir. Et ailleurs, la femme dont le mari est endormi du sommeil éternel est affranchie. Elle peut épouser qui elle voudra, pourvu que ce soit au nom du Seigneur. mais elle sera plus heureuse si, suivant mon conseil, elle reste veuve. Ce n'est pas seulement d'un second mariage qu'il accorde aux femmes, il ne leur assigne pas de limite. Dès que celui qu'elles ont épousé est endormi du sommeil éternel, il les autorise à en épouser un autre. Il ne fixe pas le nombre de leurs mariages, pourvu qu'elles évitent la fornication. Qu'elles se marient plusieurs fois, plutôt que de forniquer une seule fois, de peur qu'après s'être livrée à un, elles ne paient à beaucoup d'autres la dette. Le paiement de cette dette, même dans le mariage, n'est jamais complètement pur de péché. Mais on tolère les moindres péchés pour éviter les plus grands. Qu'y a-t-il donc d'étonnant que, pour ne pas exposer au péché, on accorde une chose qui n'en renferme aucun, c'est-à-dire qu'on permette, en fait d'aliments, tout le nécessaire à la seule exclusion du superflu? Car, je le répète, il n'y a point du mal à manger. Le mal est dans la gourmandise, c'est-à-dire qu'il consiste à vouloir ce qui n'est pas permis, à désirer ce qui est interdit, à prendre sans pudeur, comme il arrive parfois, ce qui peut causer un très grand scandale. 12. Parmi les aliments des hommes, en est-il un d'aussi dangereux, d'aussi contraire à nos vœux et au repos de la sainteté que le vin? Aussi le plus grand des sages nous détourne-t-il avec grand soin d'en user. Le vin, dit-il, est une source d'intempérance. L'ivrognerie est la mère du désordre. Quiconque se plaît à boire n'est pas sage. À qui malheur? Au père de qui malheur? À qui les querelles? Pour qui les précipices? Pour qui les blessures sans sujet? Pour qui les yeux battus? Si ce n'est pour ceux qui s'attardent à boire et qui font étude de vider les coupes. Ne regardez pas le vin et ses reflets d'or quand son éclat resplendit dans le cristal. Il entre en caressant, mais il finit par mordre comme la couleuvre. Semblable au basilic, il répand le poison. Vos yeux verront ce qui n'existe pas, votre cœur parlera à tort et à travers. Et vous serez comme un homme endormi en pleine mer, comme un pilote assoupi qui a lâché le gouvernail, et vous direz « Ils m'ont accablé de coups et je ne m'en suis pas aperçu. Ils m'ont traîné et je ne l'ai point senti. » Et vous répéterez « Quand me réveillerai-je et trouverai-je encore du vin ?» Et ailleurs « Ne donnez pas, non, ne donnez pas du vin au roi. » Samuel, où règne l'ivresse, il n'y a plus de secret. Le vin pourrait leur faire oublier la justice et ils trahiraient la cause des enfants du pauvre. Et dans l'Ecclésiaste, l'ouvrier à donner au vin ne deviendra jamais riche. Celui qui néglige les petites choses tombera peu à peu. Le vin et les femmes font apostasier les sages et condamner les gens sensés. Le prophète Isaïe, passant sur tous les autres aliments, signale le vin comme une des causes de la captivité du peuple. « Malheur, dit-il, à vous qui vous levez dès le matin pour vous livrer à l'ivresse et pour boire jusqu'au soir, jusqu'à ce que le vin vous ait fait perdre le sens. Le luth et la harpe, le tambour, la flûte et le vin, voilà ce qui règne à vos tables et vous ne songez pas à l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que mon peuple a été conduit en captivité, parce qu'il n'a pas eu l'intelligence. Malheur à vous qui êtes puissants à boire et vaillants à vous enivrer. » Du peuple, il étend ses reproches jusque sur les prêtres et les prophètes. « Eux aussi, dit-il, ils sont tellement aveuglés par le vin qu'ils ne se connaissent plus. L'ivresse les fait trébucher. Le prêtre et le prophète, dans leur ivresse, ne se connaissent plus. Ils sont pris de vin, ils trébuchent, ils n'ont pas connu la prophétie, ils ont ignoré le jugement. Toutes les tables sont souillées des traces de leurs dégoûtantes orgies. Il n'y a pas une place propre. À qui le Seigneur enseignera-t-il sa loi? À qui donnera-t-il l'intelligence de sa parole? Car il dit par la bouche de Joël, « Réveillez-vous, ivrogne, et pleurez, vous qui buvez par plaisir. » Il ne défend pas, en effet, de boire par besoin, ainsi que l'apôtre le conseille à Timothée, à cause des faiblesses fréquentes de son estomac. Remarquez toutefois qu'il ne dit pas seulement faiblesse, mais faiblesse fréquente. Noé, qui le premier planta la vigne, ignorait encore, sans doute, le mal de l'ivrognerie, et s'étant enivré, il découvrit son corps. La honte de la luxure est attachée à l'ivresse. Un de ses fils étant raillé de lui, s'attira sa malédiction, et il fut réduit en servitude. ce qui n'avait jamais encore été fait auparavant que nous sachions. Les filles de Lot avaient bien prévu que ce saint homme ne pourrait être entraîné à un inceste que par l'ivresse. La bienheureuse veuve Judith savait bien qu'elle ne pouvait tromper et abattre que par ce moyen le superbe Holoferne. Nous lisons que, lorsque les anges apparurent aux anciens patriarches, qui leur donnèrent l'hospitalité, ils firent usage de viande, mais non de vin. Les corbeaux, qui, matin et soir, portaient au grand Élie notre chef, caché dans la solitude, du pain et de la viande pour se nourrir, ne lui portaient pas de vin. Le peuple d'Israël, qui, dans le désert, se nourrissait de la chair si délicate d'écailles, n'avait pas de vin, et nous ne lisons pas qu'il en ait même jamais désiré. C'est avec des pains et des poissons que Jésus-Christ nourrit le peuple et répara ses forces dans le désert. Il n'avait pas de vin. C'est seulement aux noces, pour lesquelles on se relâche de la règle, que fut accompli le miracle du vin, source de la luxure. Mais le désert, qui est la demeure propre des moines, a connu le don de la chair plutôt que celui du vin. C'était un point essentiel de la loi des Nazaréens que ceux qui se consacraient au Seigneur évitaient le vin et tout ce qui peut enivrer. Est-il en effet une vertu? Est-il une qualité que les ivrognes puissent conserver? Aussi lisons-nous que le vin et tout ce qui peut enivrer était interdit aux prêtres de l'ancienne loi. Voilà pourquoi saint Jérôme, écrivant à Népocien sur la conduite des clercs, s'indigne si vivement de ce que les prêtres de l'ancienne loi, s'abstenant de tout ce qui peut enivrer, étaient par là supérieurs à ceux de la nouvelle. « Ne sentez jamais le vin, dit-il, de peur qu'on ne vous applique ce mot du philosophe. Ce n'est pas tendre la joue, c'est présenter la coupe. » L'apôtre condamne donc les prêtres adonnés au vin, et l'ancienne loi en interdit l'usage. Ceux qui sont attachés au service de l'autel ne boiront jamais de vin ni de bière, dit-elle. Par bière, en langue hébraïque, on entend toute boisson qui peut enivrer, qu'elle soit le résultat de la fermentation de la levure, du jus de la pomme ou du miel cuit, qu'elle soit tirée du suc des herbes, des fruits du palmier et des fraises, qui, étendues dans l'eau ou passées au feu, donnent une liqueur douce et onctueuse. Tout ce qui peut enivrer et ébranler la raison, fuyons-le à l'égal du vin. D'après la règle de saint Pacôme, nul, à l'exception des malades, ne doit toucher au vin ou à une liqueur quelconque. Qui de vous ignore que le vin ne convient nullement aux moines et que jadis les religieux l'avaient en telle horreur que pour s'en détourner ils l'appelaient Satan? Aussi lisons-nous dans les Vies des Pères. Quelqu'un rapporta un jour à l'abbé Pasteur qu'un certain moine ne buvait pas de vin et il leur dit « Le vin ne convient nullement aux moines ». Et quelques lignes plus bas, un jour qu'on célébrait des messes dans le monastère de l'abbé Saint-Antoine, on trouva un vase rempli de vin. Un des vieillards en versa dans une coupe qu'il porta à l'abbé Sisseuil et qu'il lui offrit. L'abbé Sisseuil but. On lui offrit une seconde coupe, il but encore. Mais lorsqu'on lui en offrit une troisième, il refusa, disant « Assez, frère, ne savez-vous pas que c'est Satan qui est là-dedans ?» Et ailleurs encore, au sujet de l'abbé Sisseuil, le vieillard dit à ses disciples, qui lui demandaient si ce ne serait pas beaucoup boire, un jour de sabbat ou le dimanche, à l'église, que de boire trois coupes de vin. Non, si ce n'était pas Satan, ce ne serait pas beaucoup. Saint Benoît n'avait pas oublié ce principe lorsqu'il permettait le vin aux moines dans une certaine mesure. Nous lisons bien, sans doute, dit-il, que le vin ne convient nullement aux moines, mais c'est une chose qu'aujourd'hui il serait difficile de leur persuader. Il n'est donc pas étonnant que saint Jérôme, qui n'autorisait l'usage du vin pour les hommes qu'avec restriction, le défende absolument aux femmes dont la nature est plus faible, bien qu'elles résistent mieux à l'ivresse. En effet, dans les règles de conduite qu'il donne à la Vierge Eustochie pour conserver sa virginité, il lui tient ce chaleureux langage. Si je suis capable de donner quelques conseils et si l'expérience mérite confiance, voici le premier avis, la première prière que j'adresse à une épouse du Christ. Qu'elle fuit le vin comme un poison. Ce sont les premières armes des démons contre la jeunesse. La cupidité ébranle moins profondément, l'orgueil rend moins superbe, l'ambition a moins d'attrait. Nous nous débarrassons aisément des autres vices. Celui-ci est un ennemi enfermé au cœur de la place. Partout où nous allons, nous le portons avec nous. Vin et jeunesse, double foyer de volupté. Pourquoi jeter de l'huile sur le feu? Pourquoi alimenter un brasier ardent? Cependant, les expériences de la physique ont démontré que le vin a moins de prise sur les femmes que sur les hommes. Et Théodore Macrobe en donne la raison dans son livre des Saturnales quand il dit « Selon Aristote, les femmes s'enivrent rarement, les hommes souvent. La femme a le corps très humide. Ce qui le prouve, c'est le poli et l'éclat de sa peau. Ce qui le prouve surtout, ce sont les purgations qui la débarrassent périodiquement d'un excès d'humeur. Lors donc que le vin qu'elle a bu tombe dans ce large courant d'humeur, il perd sa force, ses vapeurs s'éteignent et ne montent plus au cerveau. Et encore, le corps de la femme, purifié par de fréquentes purgations, est un tissu rempli de pores qui facilite l'écoulement et qui offre un passage à l'humeur qui s'amasse et cherche à sortir. C'est par ces pores que la vapeur du vin s'évapore en un instant. Pourquoi donc tolérer chez les religieux ce qu'on refuse aux religieuses ? Quelle folie d'autoriser l'usage du vin chez ceux auxquels il peut faire le plus de mal et de l'interdire aux autres ? Quoi de plus insensé que de ne pas inspirer à des religieux l'horreur d'une chose qui est, plus que tout autre, opposée à l'esprit de religion et capable d'éloigner de Dieu ? Quoi de plus imprudent de ne pas exiger de s'abstenir pour la perfection chrétienne de ce qui est interdit aux rois et aux prêtres de l'ancienne loi, que dis-je, d'y laisser trouver les plus grandes délices? Qui ne sait en effet quels soins les clercs et les moines d'aujourd'hui mettent à remplir leurs celliers de toute espèce de vin, à y mêler des plantes, du miel et d'autres ingrédients qui les enivrent d'autant plus aisément que le mélange est plus agréable et qui les excite d'autant plus à la luxure qu'il les échauffe davantage. Ah, c'est plus qu'une erreur, c'est du délire, que ceux qui ont fait vœu de continence ne fassent rien pour observer ce vœu, que dis-je, fassent tout pour le rompre. Les corps sont retenus dans les cloîtres, mais leur cœur est plein de libertinage. Leur âme brûle de toutes les ardeurs de la fornication. Ne buvez pas encore d'eau, mais prenez un peu de vin, à cause des faiblesses fréquentes de votre estomac, écrivait l'apôtre à Timothée. C'est à cause de sa délicatesse qu'un peu de vin lui est permis. Il est clair qu'en état de santé, il n'en prendrait point. Si nous faisons vœu de vivre suivant la règle apostolique, si nous nous engageons particulièrement à faire pénitence, si nous voulons fuir le siècle, pourquoi faire nos plus grandes délices de ce qui est essentiellement contraire à notre dessein et de ce qu'il y a de plus délectable dans tous les aliments ? Saint Ambroise, ce grand peintre de la pénitence, ne blâme que le vin dans la nourriture des pénitents. Est-il croyable, dit-il, qu'on fasse pénitence quand on a l'ambition des honneurs, quand on use et abuse du vin, quand on se donne les jouissances du mariage? Il faut renoncer au siècle. Il m'a été plus facile de trouver des hommes ayant conservé leur innocence que des hommes faisant pénitence comme il faut. Et ailleurs, dans le livre sur la fuite du siècle, vous le fuyez bien, dit-il, si vos yeux évitent les coupes et les bouteilles, de peur de prendre le goût de la luxure en s'arrêtant sur le vin. Parmi les aliments à éviter, il ne cite dans son ouvrage que le vin. Fuir le vin, c'est assez, il l'affirme, pour fuir le siècle. Il semble, à son sens, que toutes les voluptés du siècle soient renfermées dans le vin. Et il ne dit pas, si votre bouche évite de le goûter, mais si vos yeux évitent de le voir, de peur qu'à force de le regarder, les attraits de la débauche et de la volupté ne vous saisissent. C'est aussi ce que Salomon veut dire dans le passage que j'ai cité plus haut. Ne regardez pas le vin et ses reflets d'or quand son éclat resplendit dans le cristal. Que dirons-nous, je vous prie, nous qui, pour qu'il nous fasse plaisir à boire comme à voir, y mêlons du miel, des plantes, toute espèce d'ingrédients? Nous qui voulons boire encore par l'odorat. Forcé de tolérer l'usage du vin, saint Benoît disait « Nous n'y consentons qu'à la condition expresse qu'on ne boira pas jusqu'à l'ivresse, mais avec mesure. Car le vin fait apostasier même les sages. Plût à Dieu que nous en fussions à nous contenter de boire jusqu'à satiété et que nous ne nous laissions pas aller par une transgression plus grave jusqu'à l'excès. Saint Augustin, dans sa règle pour les monastères qu'il avait établie, dit « Le samedi seulement et le dimanche, selon la coutume, on donnera du vin à ceux qui en voudront. » C'est autant par respect pour le dimanche et pour les vigiles du dimanche qui ont lieu le samedi, parce que les frères, dispersés d'ordinaire dans leurs cellules, se réunissent ce jour-là, ainsi que saint Jérôme le rappelle dans la vie des pères, où il est dit en parlant d'un monastère qu'on appelle la selle, « Chacun reste dans sa cellule. Le samedi et le dimanche seulement, on se rassemble à l'église, et là, tout se range comme réunis dans le ciel. » Voilà pourquoi c'était une tolérance convenable que celle qui procurait quelque plaisir à la communauté réunie, alors que les frères sentaient plus qu'ils ne disaient combien c'est chose bonne et douce d'habiter sous le même toit. Actuellement, si nous nous abstenons de viande, est-ce un si grand mérite quand nos tables sont chargées d'une quantité superflue d'autres aliments? Nous achetons à grands frais toute espèce de poisson. Nous mélangeons les saveurs et les épices. Gorgés de vin, nous y ajoutons encore des liqueurs fortes. L'excuse de tout cela, c'est l'abstinence des viandes à vil prix, abstinence devant le monde encore. Comme si c'était la qualité et non la superfluité des aliments qui faisaient la faute. Ce que Dieu nous défend, c'est la gourmandise et l'ivrognerie, c'est-à-dire la superfluité et non la qualité de la nourriture et du vin. Aussi saint Augustin ne craint-il dans la nourriture que le vin et ne fait-il aucune distinction d'aliments. Il lui suffit qu'on s'abstienne de vin, ainsi qu'il le recommande en peu de mots. « Domptez votre chair par le jeûne et par l'abstinence dans le boire et le manger, dit-il, autant que votre santé vous le permettra. » Il avait lu, si je ne me trompe, ce passage des exhortations de saint Athanase aux moines. « Pour les jeunes aussi, on ne doit pas les mesurer à sa volonté, mais à la possibilité qui s'étend en raison de l'effort. Que les jeûnes aient lieu tous les jours, sauf le dimanche, qu'ils ne soient pas l'objet d'un vœu. » C'est comme s'il eût dit « Si l'on a fait le vœu de jeûner, il faut le tenir en tout temps, excepté le dimanche. » Il n'assigne d'ailleurs aucune règle au jeûne, la mesure pour chacun, c'est sa santé. Il ne regarde qu'à la force du tempérament, est-il dit, il permet à chacun de se fixer une règle, sachant qu'on ne pêche en rien quand on observe la mesure en tout. Il tient ce langage sans doute pour que nous ne nous laissions pas amollir par les voluptés, comme ce peuple nourri de la fleur du froment et du vin le plus pur dont il est écrit « Ce peuple chéri s'est engraissé et s'est révolté. » Il ne veut pas non plus que nous macérions notre corps par des abstinences qui pourraient, sous le poids de l'épreuve, nous faire succomber et perdre par nos murmures le fruit du sacrifice ou éveiller notre orgueil. C'est l'excès que l'Ecclésiaste veut prévenir quand il dit « Le juste périt dans sa justice. Ne soyez donc pas juste au-delà de la mesure, ni sage plus qu'il ne faut. » C'est-à-dire, prenez garde de vous gonfler d'admiration pour votre vertu. C'est à la sagesse, mère de toutes les vertus, de mesurer le poids des fardeaux, de n'imposer à chacun que ce qu'il peut porter, de suivre la nature, non de la traîner, de ne jamais proscrire l'usage, mais seulement l'abus, de ne supprimer que le superflu en respectant le nécessaire, en un mot, de déraciner les vices sans blesser la nature. C'est assez pour les faibles d'éviter le péché. Ils n'ont pas besoin d'atteindre la perfection. Il suffit d'avoir un coin dans le paradis pour ceux qui ne peuvent prendre place auprès des martyrs. Il est plus sûr de faire des vœux mesurés afin que la grâce, par ses effets, y puisse ajouter quelque chose. C'est pourquoi il est écrit « Lorsque vous aurez fait tout ce qui est ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions. » La loi, dit l'apôtre, produit la colère, car où il n'y a point de loi, il n'y a point de prévarication. Et ailleurs, sans la loi, le péché était mort, et moi je vivais autrefois sans loi. Mais le commandement étant survenu, le péché est ressuscité, et moi je suis mort. Et il s'est trouvé que le commandement, qui était pour me donner la vie, m'a donné la mort, car le péché, ayant pris occasion du commandement, m'a séduit et tué par ce commandement même. En sorte que le péché est devenu, par le commandement, une cause de péché. Saint Augustin disait de même à Simplicien, La défense a augmenté le désir qui est devenu plus doux et par cela même nous a trompés. Et dans le livre des questions, question 67e, et le charme du péché est plus entraînant et plus vif lorsqu'il y a défense. Toujours nous tendons vers ce qui nous est interdit et nous désirons ce qu'on nous refuse. Que ces réflexions fassent donc trembler quiconque veut se soumettre au joug de quelques règles et s'engager dans les vœux d'une loi nouvelle. Qu'il choisisse selon ses forces, qu'il évite ce qui les dépasse. On n'est coupable envers la loi que lorsqu'on a fait serment de lui obéir. Réfléchissez avant de vous engager. Une fois engagé, observez votre engagement. Avant, l'acte est volontaire. Après, l'obéissance est nécessaire. Dans la maison de mon père, a dit la vérité, il y a plusieurs demeures. Ainsi, y a-t-il plusieurs voies qui y conduisent. On n'est pas condamné par le mariage, seulement on est sauvé plus aisément par la virginité. Ce n'est pas pour nous sauver que les saints-pères ont institué des règles, mais pour que nous puissions faire plus facilement notre salut et nous consacrer plus purement à Dieu. Une fille, dit l'apôtre, ne pèche pas pour se marier, mais mariée, elle souffrira dans sa chair des maux que je veux vous éviter. Et encore, une femme qui n'est point mariée et qui est vierge ne pense qu'aux choses du Seigneur, en sorte qu'elle est sainte de corps et d'âme. Mais celle qui est mariée pense aux choses de ce monde, elle cherche comment elle plaira à son mari. Je vous le dis donc dans votre intérêt, non pour vous tendre un piège. Je vous le dis pour vous engager à ce qui est bien, à ce qui vous donnera la facilité de prier Dieu sans obstacle. Or, on n'est jamais plus libre de le faire que lorsque, s'éloignant matériellement du monde, on se renferme dans les cloîtres, de façon à ne plus être troublé par les bruits du siècle. Mais ce n'est pas seulement à celui qui se soumet à la loi, c'est à celui qui l'impose de prendre garde, en multipliant les commandements, de multiplier les péchés. En venant en ce monde, le Verbe de Dieu a abrogé la loi. Moïse l'avait développée, bien que, comme dit l'apôtre, ce ne soit pas la loi qui conduise à la perfection. En effet, ces commandements étaient si nombreux et d'une observation si difficile que l'apôtre Pierre déclare que personne n'a pu en soutenir le poids. « Mes frères, dit-il, pourquoi tenter Dieu en imposant à vos disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? Nous croyons que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous sauvera et eux aussi. » C'est en peu de mots que Jésus-Christ a prescrit à ses apôtres les règles de la pureté des mœurs et de la sainteté de la vie, en peu de mots qu'il leur a enseigné la perfection. Écartant les préceptes austères et difficiles, il n'en a donné que de doux et de faciles, et il y a renfermé toute la religion. « Venez à moi, dit-il, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous réconforterai. Imposez-vous mon joug, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. »